Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
Et ce n'est pas par hasard si j'avais choisi cette andante cantabile de Monsieur Tchaïkovski, reprise ici par Bobby McFerrin. C'est peut-être parce que nous allons, dans le prochain chapitre, nous allons au pays de Tchaïkovski, nous allons même dans la ville où Tchaïkovski a passé le plus clair de son temps, pas pour parler de Tchaïkovski, mais bien pour rentrer dans un univers russe. Nous partirons entre autres à Saint-Pétersbourg avec Madame Suzanne Lalumière. Alors on y va ?
4. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Suzanne.
Bonjour Clotilde.
Suzanne Lalumière, comment allez-vous?
Bien, merci.
Alors, je suis très heureuse que vous ayez accepté une fois de plus mon invitation à venir nous partager une de vos lectures. Et cette fois-ci, vous nous amenez, comme je viens de le dire, dans un univers russe.
Oui.
Puisque c'est un livre de Monsieur Andrei Makin.
Voilà. Alors voici, c'est que cette année, j'ai décidé de prendre la Russie comme thème et j'ai fait venir tous les livres que j'ai pu sur la Russie. J'en ai lu de très bons. J'ai lu autant des biographies que des romans. Catherine la Grande sur la Tchétchénie. Et voilà que je découvre M. Makin, Andrei Makin, que je ne connaissais pas.
Mm-hmm. Et le titre du livre, c'est « La vie d'un homme inconnu ». Et je voudrais préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent que Makin, ça s'écrit M-A-K-I-N-E. Voilà.
Oui, voilà. Alors, M. Makin est un Russe qui vit en France,
mm-hmm.
Mais il est né en Sibérie. Et c'est important de souligner qu'il est devenu orphelin à l'âge de 3 ans et que probablement ses parents ont disparu lors d'une purge stalinienne.
Oh.
Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va intéresser les gens dans ce livre? Je pense que c'est de connaître l'âme russe.
OK.
Alors, okay. C'est un intérêt, c'est très bien décrit, c'est très mm-hmm. bien écrit. Je trouve qu'il y a des passages très émouvants. C'est un homme qui sait transposer en mots des émotions très fortes.
OK, OK.
Et il nous amène dans une aventure où on a un écrivain qui est à Paris depuis 20 ans, qui rompt avec une jeune, il a 50 ans environ.
Il s'appelle Choutov, hein, c'est ça.
Et il décide de retourner à Saint-Pétersbourg, mm-hmm. autrefois Leningrad.
Oui.
C'est une confrontation entre la vieille génération asservie
ah,
et
oui.
la jeune génération.
Oui, oui, oui. Entre vraiment ce qu'on appelait l'URSS et la Russie nouvelle, moderne, quoi.
Exactement.
Mm-hmm.
Et à Saint-Pétersbourg, il va aller chez une ancienne amie, il rencontre un couple. Mm-hmm. Il rencontre surtout un vieux monsieur grabataire qui s'appelait Volsky,
ouais.
qui était sourd et muet, puis qui tout d'un coup lui raconte sa vie à lui. Et il nous fait, par un récit magnifique, l'histoire de sa vie, de l'occupation allemande à Leningrad, mm-hmm. de sa vie militaire, et aussi de sa vie après. Et bon, je ne vous donnerai pas toute l'histoire, mais je voudrais souligner quelques moments clés.
Oui, mais prenez votre temps. Allez-y, Suzanne, avec plaisir.
Alors, il y a quatre personnages importants. Il y a Choutov.
Oui.
Et il le décrit comme une bombe à retardement dont la déflagration n'a pas fait de bruit. Hein? C'est
ouais.
des mots très, très percutants.
Ouais, ouais, ouais.
On a un autre personnage, Volsky, qui va nous faire traverser, non pas une épopée, mais un calvaire, celui de Leningrad,
ouais.
celui des camps. Et lui aussi a des moments magiques. Par exemple, quand il retrouve sa femme Mila, qu'il aime d'un amour passionné, mais c'est pas simplement une romance.
Non, non.
C'est l'histoire d'un amour très profond, mm-hmm. Malgré les séparations. Alors, mm-hmm. il a perdu Mila, il retourne à Leningrad, et dans Leningrad, il voit une vieille femme repliée sur elle-même, qui ne parle plus à personne, qui est rejetée par son entourage. Et il dit, pourtant, elle a les traits de Mila, mais elle mm-hmm. est tellement défaite. Il tourne autour. Finalement, il lui fredonne une chanson et Mila se ranime. C'est des émotions très intenses.
Écoutez, vous m'en parlez, puis j'ai comme on dit, la chair de poule. Là, j'ai les bras... j'ai les poils sur les bras qui sont tout droits. Non, c'est vrai, on sent l'émotion beaucoup, la façon dont vous nous en parlez.
Oui. Ben, j'ai trouvé que c'est un homme qui touchait à l'âme humaine. On dit de Makin qu'il est aussi philosophe,
mm-hmm.
et ça transparaît dans son livre. Et il écrit très bien. Il a gagné le prix Goncourt déjà, puis ça paraît.
Ouais. Ouais.
C'est un homme extraordinaire. Et puis, il y a un autre moment où on a Volsky qui découvre dans un champ des tombes de soldats inconnus qui ont été enterrés sommairement.
Mm.
Et lui et sa femme décident de prendre, de ramasser, de refaire le terrain, d'arranger tout cela et de ramasser les casques, les mots doux
oui.
qui étaient dans un petit papier de tablette de chocolat qui ont survécu à l'enterrement et tout ça. Ils ramassent tout ça. Puis lui, il plante des arbres par-dessus ses tombes.
Okay.
Et j'ai pensé... C'est tellement joli parce que c'est la Renaissance.
Mais oui, bien sûr.
Alors, il y a des moments comme ça magiques.
Vraiment, la façon dont vous m'en parlez, il me semble que j'ai tellement d'images qui me viennent à l'esprit comme ça, ça a l'air vraiment... Andrei Makin, je vous rappelle, on va rappeler ensemble le titre du livre, « La vie d'un homme inconnu ». Aimeriez-vous que j'en lise un tout petit extrait?
Certainement.
Parce qu'il y a l'histoire qui est importante. Il y a aussi, c'est vraiment pas une bluette, là, c'est vraiment pas un roman d'amour, mais il y a quand même aussi beaucoup de sentiments amoureux et les personnages de femmes sont magnifiques. Alors il y a, ceci par exemple. Il tomba amoureux de tout ce qu'était Léa et tout ce qu'il voyait d'elle avait la finition d'une phrase qu'on n'a plus à retoucher.
Oui.
Cette vieille veste de cuir à la doublure élimée, une veste étroite et qui avait fini par calquer les courbes du corps de Léa. Le vêtement gardait le tracé de ses galbes, même quand il restait suspendu dans l'entrée du colombier. Et puis, les cahiers de Léa, l'application un peu enfantine de ses notes, très française, se disait Choutov, en y trouvant cette obsession de la jolie formule.
Oui, alors c'est très très joli. Ça, c'est lorsqu'il demeurait à Paris, dans le Colombier.
C'est ça.
Et c'est la première partie. On dit qu'il y a presque deux romans dans ce livre. Parce que la première partie, c'est l'histoire de Choutov. Mm-hmm. Et la deuxième partie, c'est l'histoire de Volsky.
Est-ce que les deux parties vous ont intéressé beaucoup? Parce que je lisais, moi, notamment, certaines critiques disant justement que la première partie était nettement moins intéressante, celle au cours de laquelle on fait connaissance avec Choutov.
Je suis un petit peu d'accord avec ça.
Vous êtes
elle
un petit peu d'accord.
Elle n'est pas facile. Elle est très littéraire parce que Choutov est un homme littéraire qui n'est pas capable de rentrer dans la vie de tous les jours.
Oui.
Il est toujours en train de faire des références à Tolstoï. Et d'ailleurs, la jeune fille qui est avec lui, Léa, le quitte parce que il est 1950.
Ah,
et
oui.
Ça se passe en 2000. Alors, c'est, je veux dire,
il
ne correspond pas à l'idéal d'aujourd'hui. C'est un homme traditionnel, qui a connu l'asservissement, etc., qui est très sensible, mais qui s'est aussi un peu réfugié dans la littérature. Et cette partie-là, quand je l'ai relue, je me suis dit, mon Dieu, j'ai tant aimé ça.
Ah oui, hein?
Mais par contre, la deuxième partie, et la finale vient faire la boucle.
Ah, OK. OK. N'en dites pas plus. On va laisser nos amis auditeurs découvrir ce livre-là grâce à vous. La vie d'un homme inconnu de Andreï Makine, disponible au SQLA. Suzanne Lalumière, c'est toujours un régal de vous entendre parler de livres. Peut-être aurons-nous l'occasion de faire une autre découverte avec vous et en Russie, puisque c'est le thème de l'année pour vous. Vous faites ça tous les ans, comme ça, un thème différent?
Ouais, c'est ça, ça dépend des projets.
Merci beaucoup, Suzanne Lalumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'aurai grand plaisir à vous réaccueillir à cette émission.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Des nouvelles et des livres.
Alors, des nouvelles et des livres, ça c'est l'occasion peut-être, grâce à une nouvelle glanée dans un journal et de noms qui sont cités à ce moment-là, d'aller voir au sujet de ces gens dont on parle et d'aller voir surtout lorsqu'ils sont des auteurs. Tiens, mais au fait, qu'est-ce qu'on a de disponible chez nous de cet auteur-là en audio? Et au mois de septembre dernier de cette année, c'était exactement le mercredi 17 septembre dans la presse, on nous présentait une rencontre avec l'essayiste Naomi Klein qui lance un véritable cri de ralliement contre le réchauffement climatique. Naomi Klein, il faut le rappeler, qui est une journaliste canadienne, auteure, cinéaste et militante altermondialiste. C'est incroyable. Bon, l'histoire familiale de cette femme-là est teintée de militantisme politique. Ses grands-parents étaient des marxistes américains très actifs dans les années 30 et 40. Son grand-père a été renvoyé de son poste d'animateur chez Disney après y avoir organisé la première grève de l'histoire des studios, c'est vous dire. Et Madame Klein, dans son nouveau livre qui a été lancé cette semaine, alors je vous le dis, je vous le reprécise, ce dont nous allons parler, c'est de Madame Klein et des livres que nous avons déjà d'elle. Mais je voulais quand même parler de cette nouveauté parce que nous allons l'enregistrer, bien évidemment, et que ça va arriver jusqu'à vos oreilles dans les mois à venir. Un livre qui s'appelle This Changes Everything. Et c'est son nouveau livre, Madame Naomi Klein, et c'est un cri de ralliement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est aussi un grand ras-le-bol envers les politiciens dont les promesses ne se sont pas concrétisées. Et elle dit que ça nous prend à tout prix un changement idéologique. Elle dit que c'est plus facile à comprendre au Québec, car ici, il y a déjà un débat sur l'idéologie. Les gens savent que le néolibéralisme existe, qu'il ne fait pas l'unanimité. Et lorsqu'on lui demande, bon, il y a eu, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines a eu lieu à New York le sommet de l'ONU sur la lutte contre les changements climatiques, et on lui avait demandé, avez-vous espoir de voir changer les choses? Et elle avait dit, j'ai espoir parce que nous avons un mouvement authentique de gens qui veulent du changement. Alors avant le sommet, il y aura à New York ce qui pourrait être la plus grande marche jamais organisée dans le monde sur le climat. Effectivement, cette grande marche-là a eu lieu à Montréal aussi d'ailleurs. Elle dit que aussi il faut lier la question des changements climatiques à d'autres questions qui touchent la vie des gens, comme la santé, l'emploi, les inégalités. Si le public voit le réchauffement climatique comme un problème à part, isolé des autres grands défis de notre époque, nous sommes cuits. Et de Madame Klein, nous avons au SQLA deux titres sur lesquels je voudrais attirer votre attention. D'abord, nos logos, la tyrannie des marques, zéro espace, zéro choix, zéro boulot. Telle est selon Naomi Klein, la société issue de la mondialisation et du règne des marques. Zéro espace, car la ville est envahie par la publicité. Les logos s'étalent même sur nos vêtements. Et puis, il y a un petit peu la suite à ce no logo, la tyrannie des marques, également disponible chez nous. Ça s'appelle la stratégie du choc, deux points, la montée d'un capitalisme du désastre, où elle se demande qu'y a-t-il de commun entre le coup d'État de Pinochet au Chili en 73, le massacre de la place Tiananmen en 89, l'effondrement de l'Union soviétique, le naufrage de l'épopée Solidarność en Pologne, les difficultés rencontrées par Mandela quand il était encore en vie en Afrique du Sud post-apartheid, les attentats du 11 septembre, etc., etc. Qu'y a-t-il en commun entre tous ces éléments-là? Et c'est donc c'est à cette question-là qu'elle répond dans ce livre, La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Alors je vous les recommande, ils sont présents, ils sont tout à fait disponibles, et évidemment ils sont remarquables si vous êtes tenté par cette aventure en ce qui concerne l'environnement, si vous aussi vous vous posez beaucoup de questions, si vous aussi vous vous demandez si il n'y a pas une partie de la Terre qui crève parce que l'autre est beaucoup trop riche, eh bien avec Madame Naomi Klein, peut-être aurez-vous non pas un semblant de réponse, mais au moins un point de départ pour une discussion. Voilà, Madame Naomi Klein.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ça, c'est pour vous présenter Éric de Belval, qui va venir à notre émission la semaine prochaine. Éric de Belval, qui vit à 63 ans de sa plume, mais aussi du pinceau, parce qu'il est peintre. D'ailleurs, ses œuvres sont exposées à la Galerie d'art Le Bourget de Montréal. Il est né à Paris, Éric de Belval. Il a immigré au Canada en 2011. Et il est aussi, Éric de Belval, lecteur bénévole chez nous et auteur. Et là, il a sorti un livre qui s'appelle Incision, et c'est un livre qu'il va venir nous présenter la semaine prochaine. Que nous dit-on en quatrième de couverture? Je l'ai là sous les yeux. Le docteur Thomas Schwartz a d'autres problèmes à résoudre. On parle là au départ du cet homme-là est hanté par une erreur médicale fatale, mais il a en plus d'autres problèmes à résoudre. Une paralysie nerveuse foudroyante le prive de l'usage de ses mains et un robot semble avoir l'ascendant sur ses doigts moins précis. Il s'oppose à des avancées techniques qui déshumanisent sa profession. Un collègue de l'hôpital McGill lorgne son poste, tandis que sa femme ne l'aime plus. Ça fait effectivement beaucoup de choses. Avec l'erreur de diagnostic et de développement de la robotique en chirurgie comme toile de fond, ce récit romanesque, nous dit-on ici, s'appuie sur des faits réels et sur un contexte existant. On en saura beaucoup plus la semaine prochaine parce que M. de Belval viendra nous présenter ce livre que non seulement il a écrit, mais qu'il a lu aussi pour vous dans les cabines de chez Vues et Voix. En attendant qu'on reçoive M. de Belval, je vous propose qu'on écoute un extrait de son livre « Incision ».
Une fois dans l'eau, la tête entourée de vapeur, elle s'abandonna à ses angoisses habituelles. Qui était ce type? Ce mari qui la traversait comme une habitude, qui la considérait comme un gros bibelot. Le genre d'objet qu'on emballe à chaque déménagement. 12 années de passe-muraille sentimentale résumaient l'histoire de leur couple. Les bons moments, lesquels? Ceux des premiers jours, lorsqu'elle sursautait de plaisir en entendant la sonnerie de son téléphone, celle de son appartement lorsqu'il paraissait magicien de leur première nuit, un bouquet à la main, de fausses promesses sur les lèvres. Les projecteurs qu'elle croyait destinés à éclairer leur vie, cette scène grandiose où devait se jouer une aventure assoiffée de renouvellement et remplie de surprises, s'étaient tous éteints le jour de l'annulation de leur voyage de noces.
Alors, je vous rappelle le titre de ce livre dont il sera question la semaine prochaine. C'est une nouveauté aussi du SQLA, Incision au pluriel de Éric de Belval. C'est d'ailleurs lui dont vous entendiez la voix et c'est lui qui a écrit ce bouquin.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, j'ai pour vous effectivement plusieurs nouveautés à vous proposer. Notamment ceci de Éric Emmanuel Schmitt, le toujours très attendu Éric Emmanuel Schmitt avec les perroquets de la place d'Arezzo. Un résumé, les grands platanes autour de la place d'Arezzo sont envahis par les perruches et les perroquets. Dans ce lieu vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. Toutes sortes de personnes se croisent, gouvernées par leurs passions, leurs désirs, leurs fantasmes amoureux et sexuels, jusqu'au jour où leur parvient une lettre anonyme, identique, envoyée par une colombe. En découvrant chacun de ces personnages, on découvre la lettre anonyme qu'ils reçoivent tous, ce mot juste pour te signaler que « je t'aime » et c'est signé « tu sais qui ». Voilà la prémisse à ce livre « Les perroquets de la place d'Arezzo » de Éric Emmanuel Schmitt. Quelques critiques, celle de la Libre Belgique. « Ces perroquets, nous dit-on, sont plus un divertissement, un feuilleton que de la grande littérature, mais ils feront passer un moment agréable à réfléchir aux promesses et aux ravages du désir ». Une autre critique dans Le Figaro, celle-ci, c'était sortie le 26 août 2013. L'auteur à succès surprend avec Les perroquets de la place d'Arezzo, un roman sensuel qui met la complexité des sentiments amoureux à l'honneur. Si vous aimez qu'il y ait un peu de sexe dans les livres, eh bien dans celui-ci, il semblerait qu'il y en ait même beaucoup, alors ne vous gênez pas. Quelques citations, extraits de ce livre Les perroquets de la place d'Arezzo d'Éric Emmanuel Schmitt. « Je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait appris, enfant, à parler. En revanche, je me rappelle très bien qu'on nous a appris à nous taire. » Ou alors ça, « Les enfants, c'est comme la télévision, pas obligatoire. Personne n'est forcé de se pourrir la vie. » Et puis celle-ci, « La vieillesse commence quand on ne vous touche plus. » Autre chose complètement, là, c'est au sujet de, et c'est le titre aussi du livre, Bertrand Cantat, Marie Trintignant, L'amour à mort de Stéphane Bouchet et Frédéric Vézard. Bouchet, B-O-U-C-H-E-T, Vézard, V-E-Z-A-R-D. C'est une grande enquête, évidemment. Faut-il le rappeler? Vilnius, 26 juillet 2003. Bertrand et Marie se disputent, Bertrand Cantat et la comédienne Marie Trintignant. Il la frappe, la comédienne plonge dans un coma fatal. Condamnée en Lituanie à 8 ans de prison, puis incarcérée en France, le leader du groupe Noir Désir sera libéré 4 ans plus tard pour bonne conduite. C'est un récit, nous dit-on, qui dessine le portrait d'un homme seul, rongé par une jalousie destructrice, suscitant la crainte, la colère et l'incompréhension de son propre entourage. Une enquête sans parti pris sur un fait divers qui continue de hanter les mémoires. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, c'est très très pointilleux. Il n'y a aucun parti pris là-dedans. Et on se souvient que c'est un fait divers qui nous a beaucoup marqués tous, les uns et les autres. On change encore de registre avec « Les 100 derniers jours » de Patrick McGuinness. Ça, de quoi s'agit-il? C'est un jeune professeur anglais qui débarque en Roumanie en remplacement d'un confrère et qui va rester quelques mois juste avant la chute du régime de Ceausescu, ce qui explique d'ailleurs le titre « Les 100 derniers jours ». Et il est guidé, ce jeune professeur, dans ses premiers pas à Bucarest par Léo, qui est un trafiquant au marché noir, qui lui fait découvrir toutes les astuces des marchés parallèles. C'est un roman qui nous permet vraiment de découvrir la vie quotidienne particulièrement difficile des Roumains à l'époque. La nourriture qui se fait rare et rationnée, la contraception n'existe pas. On a l'impression qu'on est constamment sous surveillance. C'est vraiment une très belle évocation de la Roumanie, de l'ère communiste et aussi de la vie quotidienne derrière le rideau de fer dans les années 80. Une critique de presse, celle de Libération. L'auteur, dont c'est le premier roman, un sens particulier et particulièrement efficace de la description. Le regard mélange un sens symboliste de l'image, l'art vivant du portrait, l'humour concis et précis des anglo-saxons, le goût de la maxime appliquée aux situations. Voilà, c'est vraiment quelque chose à lire aussi. J'en avais d'autres aussi pour vous. Ah oui, ça, l'analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson, c'est à lui que l'on doit le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, dont Gérard Cyr, bénévole, est venu nous parler ici il y a quelques mois. D'ailleurs, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui sort au cinéma. Donc, c'est intéressant aussi de le savoir. Ah ben alors là, il remet le couvert avec l'analphabète qui savait compter. Et autant dire que c'est très, très drôle. C'est très bien écrit. Il paraît que c'est un cran en dessous peut-être de son premier roman. L'héroïne est une jeune fille qui vit à Soweto, qui travaille pour les latrines municipales. Alors oui, elle transporte des seaux de tout ce que vous pensez toute la journée. Enfin, quand elle ne s'occupe pas de donner un coup de main à son chef pour ce qui concerne les chiffres, parce que effectivement, cette jeune femme qui travaille dans des latrines, eh bien, elle est comptable. Et puis, il va lui arriver toutes sortes de péripéties qui fait en sorte qu'on va arriver en Suède, où l'histoire va se dérouler. Et on nous dit dans cette critique que c'est un bon remède contre la morosité. C'est un livre qui met de bonne humeur et qui fait travailler les muscles zygomatiques. Que demander de plus, nous dit-on. Jetez-vous sur cet agréable moment de détente et de plaisir. Et puis, j'avais envie aussi de vous parler de Alain Lefebvre, Portrait. Ça, c'est signé George Nicholson, le musicien montréalais Alain Lefebvre, qui raconte son portraitiste Nicholson dans un ouvrage qui lui est consacré, est un enfant de l'immigration. Jusqu'à l'adolescence, il fut violemment rejeté par ses camarades de classe à cause de ses allures de petit français bien habillé, qui sent l'ail et la lavande, qui parle pointu, qui joue du piano. À l'âge adulte, le chemin fut parsemé d'embûches pour M. Alain Lefebvre, le pianiste. Et vous savez, ce qui serait formidable, et du moins je l'espère, c'est que Alain Lefebvre et George Nicholson puissent venir à l'émission pour nous parler de ce livre. Et c'est du moins ce que je souhaite. Merci beaucoup à mes invités, puisque c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Lorraine Pintal. Merci à Marie-Christine Morat. Merci à Suzanne Lalumière. Merci à vous d'être là fidèlement. Parlez-en autour de vous. Cette émission-là, on la conçoit avec beaucoup d'amour. Merci à Kamal Salifou, à la technique. C'était Clotilde Sey qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. En attendant, vous pouvez toujours écouter celle-ci en reprise sur Canal M, bien sûr.
Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
On dit qu'un livre qu'on quitte sans en avoir extrait quelque chose est un livre qu'on n'a pas lu. Alors pas de doute que mes invités aujourd'hui ont tous extrait beaucoup de choses de leur lecture. D'ailleurs, je devrais dire toutes parce que ce sont trois femmes qui sont autour de moi aujourd'hui. Et alors c'est même pour cette raison, parce qu'elles ont extrait beaucoup de choses de leur lecture, qu'elles vont venir vous les partager avec grand plaisir.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, nous avons une brique très, très, très attendue sur la table du studio, le chardonneret de Donna Tartt. Et puis, nous avons la chance d'accueillir d'abord Marie-Christine Morat, qui est celle qui a lu pour vous bénévolement ce livre-là, le chardonneret. Et il y a une personne parmi des milliers d'autres qui a adoré ce bouquin, qui fait des triples saltos chaque fois qu'elle en parle.
et qui a tout de suite accepté de nous dire pourquoi, c'est Lorraine Pintal. Bonjour Lorraine, bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Et puis en seconde partie, je vais m'entretenir avec Suzanne Lalumière, qui est non-voyante, et oui, et qui aimerait partager avec vous sa lecture d'un livre d'Andrei Makine. Et puis il y aura tous les chapitres, toutes les rubriques habituelles, le classique du jour. On parlera du cri d'alarme de Naomi Klein, il y aura des extraits de livres, et puis pour terminer, des rafales de titres, des nouveautés au SQLA. Bon allez, on connaît la table des matières, alors on ouvre le livre.
Chapitre 1. Le bénévole du jour.
Et comme la vie est mal faite, hein, quand on a enregistré ça, on a fait le bénévole du jour, j'ai pas pensé, mais alors une demi-seconde à enregistrer aussi la bénévole du jour, alors ça va rester le bénévole du jour, même si c'est la bénévole. Bonjour Marie-Christine Morin.
Bonjour Clotilde.
Marie-Christine, lorsqu'on arrive en cabine, comme vous le faites régulièrement, une fois, deux fois, voire trois fois par semaine pour enregistrer des bouquins bénévolement, et que on voit devant le micro une brique de 850 pages comme le chardonneret de Donna Tartt, quelle est la première réaction? C'est comme « Oh my God !» ou alors c'est « Oh yes !»
C'est « Oups !»
Ah oui.
Entre les deux, c'est « Oups !» Mais là, quand même, quand je suis arrivée, j'avais été escortée parce qu'il y avait des gens qui savaient que c'est moi qui allais lire le chardonneret. Et donc, j'ai fait des tonnes d'envieux et d'envieuses.
Ah, ils étaient jaloux.
Plein de bénévoles qui auraient voulu, effectivement.
Ah, oui.
Ils me disaient, oh, t'as de la chance. Ouais. Alors, j'ai fait, oups, et puis, bon, ben oui, alors, allons-y. Voilà, donc la première réaction, c'est ça.
Et est-ce que vous aviez déjà lu, vous, du Donna Tartt?
Non, j'avais jamais lu du Donna Tartt.
Donc, mais elle écrit peu, la Donna Tartt.
C'est ça, elle écrit
ça. Bon. À part le maître des illusions et le petit copain.
Et le petit copain, que nous avons d'ailleurs enregistré. Hein. Ils sont tous là, je le précise, voilà. pour ceux qui nous écoutent. Hein. On a les trois ici. Alors, comment ça s'est passé, cette lecture-là? Est-ce que c'est une lecture difficile? Moi, par exemple, je l'ai commencé, mais on va faire semblant que je ne le connais pas.
D'accord, on va faire semblant.
Je lis partout qu'entre autres, la traduction est exceptionnelle en français.
Alors ça,
Est-ce que vous sentez ça, vous?
Je crois, oui, puis je ne me permettrai vraiment pas d'en juger,
ouais,
mais
bon,
je pense effectivement que la traduction est quand même excellente, poussée, méticuleuse. Bon, voilà, donc le début, on commence. Hein, le début, on se met dans l'histoire, on se met dans le bain. Mm-hmm. Et puis, effectivement, les critiques étaient tellement dithyrambiques. Et puis, tous ces gens qui m'avaient fait une haie d'honneur en me disant « la chanceuse ouais. ». Bon, j'ai commencé ma lecture. Et puis, quand même, au bout de deux, trois séances, j'avoue que... Oui, bof, je me disais, bon, mais ça va venir.
Parce que vous faites partie, non pas de ceux qui ont adoré comme Lorraine Pintal, non pas de ceux qui ont aussi détesté complètement.
Ah non, pas du tout, non.
Mais vous aviez des petites réserves, vous, hein?
Oui, moi j'ai des petites réticences quand même, mais en fait, voilà, je culpabilisais presque d'ailleurs d'oser l'avouer.
Comme quoi, bah oui, non, mais justement, c'est ce qui est intéressant, qu'on n'ait pas les mêmes
les mêmes points de vue, mais oui.
Alors, c'est pas du tout l'histoire qui me déplaît, au contraire, je la trouve très subtile, il y a plein de choses qui me plaisent. C'est pas non plus les personnages qui me déplaisent, même si, contrairement à ce que disent beaucoup de critiques, certains personnages m'ont absolument pas semblé crédibles.
Mais, comme par exemple lesquels?
Comme par exemple Théo, qui est quand même le personnage principal. C'est pas un adolescent de 12-13 ans qui s'exprime.
Oh, mais là, on est dans la littérature.
Ah oui, mais non.
On n'est pas dans la captation télévisuelle.
Non, mais c'est pas seulement de la littérature. Là, c'est son quotidien, c'est son vécu, c'est ses ressentis, c'est toute l'analyse de ses sentiments, du traumatisme qu'il subit. Et c'est pas un enfant de 12-13 ans, surtout dans ce qu'on croit percevoir du contexte dans lequel il a été élevé, qui pourrait réagir comme ça.
Ah ben, il y avait une mère quand même qui était assez portée sur les visites des musées.
Oui, c'est ça.
Assez éveillée à la culture.
Assez éveillée à la culture, oui. Mais pour le reste, pour la façon dont il s'exprime, et justement pour après, sans vouloir dévoiler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais toute la dérive dans laquelle...
Un peu quand même. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Donc, ce Théo-là, au début du livre, il fait donc la visite d'un musée avec sa mère.
Qu'il n'aurait pas nécessairement dû faire à ce moment-là.
Exactement.
Donc, c'est le destin qui fait qu'il se retrouve dans une salle où il y a ce fameux chardonneret.
Exactement. Oui. Où là, d'ailleurs, il y a la première rencontre avec d'autres personnages, notamment celle qui va rester en vie, qui
c'est
est
ça.
Le personnage
qui pipa,
de Pipa. C'est
ça. Magnifique.
Oui. Ça, c'est un beau personnage.
Ah, elle est super.
C'est entre l'ange et la fée.
Oui. Et cet amour absolu qu'il a pour elle. Ouais. Mais je défendrai cette langue. Je vais donner l'exemple de Régent Ducharme qui met dans la bouche de ses adolescents qui ne veulent pas grandir, en fait, qui ne veulent jamais devenir des adultes, une langue extrêmement châtiée avec des métaphores. On ne peut pas croire, par exemple, qu'André et Nicole Ferron, dans L'Hiver de Force, parlent comme ça dans la vie. Ouais. Mais par contre, ça fait des personnages dont la couleur et la manière singulière de s'exprimer donnent tout le caractère au roman. Alors, moi, j'y ai cru à Théo, mais alors là, complètement machon embarqué dans son mental.
C'est marrant parce que moi...
Et j'ai adoré la langue, là. Ouais. Mais elle a une langue. C'est pas possible d'écrire comme ça. Là.
Mais
c'est...
alors, justement, moi, je me suis... Parce que ça m'intriguait quelque part. Je me disais, mais qu'est-ce qui me dérange, en fait? Puisque donc, j'aime l'histoire, j'aime aussi les personnages. D'autres personnages, je les adore.
Boris est magnifique.
Boris est magnifique. Le
père.
L'antiquaire, et voilà. Bon, donc, il y a plein de choses très fortes. Donc, ce qui me dérangeait, je crois, c'était plus... la façon dont c'était écrit, et là je me suis dit, mon Dieu, on va dire, mais quelle prétentieuse, mais c'est pas ça du tout. Et c'est peut-être aussi le fait d'être lectrice, justement, à vue et voix, et de lire à voix haute, où on prend conscience de certaines choses, et ça serait parfois intéressant, effectivement, d'en discuter avec des auteurs, parce que quand on a la référence visuelle, nous on lit, on voit la page, on voit les parenthèses, on voit les crochets, on voit les virgules, on voit les guillemets, ça peut aller... Mais quand vous vous retrouvez avec des phrases qui font des pages et des pages avec une ponctuation parfois assez aléatoire, quand on finit la phrase, on ne sait plus de quoi
ça, c'est Proust. Alors là, Proust, voilà. C'est à peu près la même chose.
Mais alors, c'est d'autant plus étonnant chez Donatarte, parce que du coup, je me suis un petit peu amusée à regarder la façon qu'elle avait d'écrire. Et par exemple, alors elle dit qu'elle adore la littérature française, effectivement, mais qu'elle n'affectionne pas particulièrement Balzac parce que c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop descriptif.
Ah ben ça, elle a raison. Oui, et parce que c'est pas les mêmes descriptions. Balzac peut décrire une table pendant 14 pages, alors qu'elle, c'est des situations, c'est des émotions, c'est des rapports humains. Là. C'est
pas, oui, elle est quand même capable de décrire des scènes de beuverie.
Mais moi, je suis curieuse. Là, c'est la metteur en scène qui va s'exprimer plus que la lectrice, parce que le défi, quand on lit ce genre d'œuvre, c'est de permettre à l'auditeur de bien reconnaître tous les personnages. Et il y a, entre autres avec Boris... Il y a des accents, il est d'origine russe, voilà. Et il a une manière très particulière de s'exprimer. Tous les gens qui gravitent autour de cette zone mafia, alors comment on fait pour est-ce qu'on change sa voix à chaque personnage?
On est à vue et voix aussi, donc on a quand même, entre guillemets, un petit cahier des charges. Effectivement, on ne nous demande pas de surjouer la lecture.
Hein, d'accord.
Parce qu'il faut qu'on soit l'interprète, quelque part, de la personne qui va écouter cette histoire. Et c'est elle qui met les personnages comme elle a envie de les mettre. Donc, effectivement... C'est vrai qu'on vocalise beaucoup, surtout quand on a des phrases qui font 12, 15, 20 lignes avec justement des crochets, des parenthèses, des virgules, on est un peu obligé de... Quand il y a des dialogues avec des personnages très différents, c'est vrai que j'essayais de prendre un petit peu un autre timbre de voix pour Boris.
Oui, ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, c'est qu'on change le pitch, comme on dit. C'est-à-dire que tout d'un coup,
ou
le rythme aussi, exactement. Voilà. Tout d'un coup, on va ralentir un petit peu le débit. On va s'approcher un tout petit peu plus du micro quand c'est madame qui parle. Et quand c'est monsieur qui répond, on peut se reculer un petit peu comme ça. Donc, il y a plusieurs moyens de moyenner, comme on dit.
Mais ce qui est très, très beau, c'est parce que justement, vous faites... j'imagine très bien la mère de Théo s'approcher du micro justement dans ce rapport tellement intime parce que c'est un amour fusionnel qu'il va reproduire avec Pippa plus tard et qui malheureusement ne sera pas un amour heureux et toute la relation avec le père qui est conflictuelle et ce que j'ai trouvé génial de sa part c'est de débuter le roman sur cet événement qui n'est pas sans rappeler certains événements tragiques que je ne nommerai pas mais qui ont quand même bousculé la vie des Américains et la vie du
et
monde
des
au complet
hein,
et des
ça,
Européens. Donc, évidemment, un attentat terroriste. Oui. Et de placer cet être fragile déjà au cœur d'un événement qui a secoué la planète et de le placer lui-même en opposition intime avec la mère, en conflit avec le père et en même temps, en opposition aussi avec le russe d'origine, donc la Russie, et la manière dont elle tricote toute l'histoire par la suite pour nous amener carrément sur le territoire du tableau volé. C'est tellement bien fait. Ouais. Moi, je prédis un jour que Donatarte va avoir le prix Nobel de littérature et peut-être avant Philip Roth. Alors que j'ai toujours dit qu'il fallait que Philip Roth l'ait un jour. Mais là, je me dis, elle... Ah! Je suis coupée, je parle trop.
Non, ça y est, pas du tout. Est-ce qu'on peut poursuivre, mon ami? Je voudrais qu'on écoute un petit extrait lu par Marie-Christine. Voilà, alors c'est parti. Nous sommes à Amsterdam.
Parce que j'étais gelée, malade, et la plupart du temps désœuvrée, tout comme j'avais oublié de prendre des vêtements chauds, je n'avais emporté aucun livre, je passais l'essentiel de la journée au lit. La nuit semblait tomber au milieu de l'après-midi. Je m'endormais souvent pour me réveiller à intervalles réguliers, dans le froissement des journaux en désordre. Et la plupart de mes rêves étaient troublés par cette même angoisse floue qui infiltrait ensuite mes heures de veille. Procès, bagages éventrés sur le tarmac, mes vêtements éparpillés partout et des couloirs d'aéroport sans fin où je courais vers des avions, sachant que je n'arriverais jamais à les prendre. La fièvre me causait quantité de rêves bizarres et des plus colorés, émaillés de suée où je me débattais en tous sens sans la moindre notion de l'heure. Mais lors de la dernière et pire de ces nuits, je vis ma mère dans un rêve bref et mystérieux qui me fit davantage l'impression d'une visite surnaturelle. J'étais dans la boutique de Hobby, ou pour être plus précis, dans un espace onirique, hanté, censé figurer une version sommaire de la boutique, lorsqu'elle est apparue tout à coup derrière moi, surgissant dans le reflet que me renvoyait un miroir. Son image me paralysa de bonheur. C'était elle, jusqu'au plus infime détail et jusqu'au dessin de ses taches de rousseur. Elle me souriait, plus belle et sans une ride, avec ses cheveux noirs et la drôle de manière qu'avait sa bouche de se relever vers le haut. Il ne s'agissait pas tant d'un rêve que d'une présence emplissant toute la pièce. Une force bien à elle, une altérité vivante. Et j'avais beau le souhaiter de toutes mes forces, je savais qu'il m'était impossible de me retourner, que la regarder directement signifiait violer les lois de son monde et du mien. Elle était venue à moi de la seule manière qu'elle connaissait, et nos yeux se croisèrent dans le miroir pendant un long moment immobile. Mais, juste au moment où elle semblait sur le point de parler, avec ce qui semblait être un mélange d'amusement, d'affection et d'exaspération, une vapeur ondula entre nous, et je me réveillais.
Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais ardent mirage. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore. Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'as quitter la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous entrouvraient leur nuit.
Oui, quand j'ai mixé ça, je me disais, oh, quelle musique. Puis tout d'un coup, ça m'est apparu évident, après un rêve de Gabriel Fauré qu'on vient d'entendre là. Tu m'appelais et je quittais la terre. Personnellement, si j'avais écrit rien que ces mots-là dans la vie,
vous seriez heureuse. Vous pourriez mourir heureuse.
Je pourrais mourir heureuse. Non, mais écoutez,
c'est vrai que c'est magnifique.
Donc c'était la raison pour laquelle je voulais vous faire réentendre. Et puis allez, on va vous introduire mon invité à nouveau parce que j'adore ça, faire ça. Allez, on y va.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et je vous le disais, l'invité spécial, c'est Lorraine Pintal. Lorraine, bonjour. Je suis tellement contente. Surtout que ça s'est fait tellement simplement, rapidement, facilement. Je vous ai envoyé un courriel.
Et j'ai répondu.
Genre un quart d'heure après, oui, je viens parler du chardonneret. Oui. Alors vous, je le disais, Lorraine, vous êtes complètement tombée en amour. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce que vous avez tout lu de Madame Donata.
J'ai pas lu Les Petits Copains. Ah. Alors, ça m'a donné vraiment envie de le lire parce que, bon, je suis quand même de celle qui a découvert le maître des illusions comme l'ensemble de la planète. Mm-hmm. Mais non, Le Petit Copain, j'ai fait, il faut que je rattrape Madame Donat Hart. Mais j'étais vraiment intéressée par le chardonneret, d'autant plus que je trouve ça vraiment un hasard d'avoir fait entendre un extrait qui se déroule à Amsterdam parce que j'ai lu une partie du roman à Amsterdam.
C'est vrai?
Oui, je passais 3 jours à Amsterdam pour le journal d'Anne Frank.
Okay.
Et j'avais ce livre avec moi. Et là, j'avoue que là, j'ai atteint un certain niveau de lévitation parce que là, je me dis, je peux suivre presque les aventures des héros en moi-même, me perdant dans le labyrinthe des rues d'Amsterdam. Alors ça, c'est magnifique, vraiment. Là. Mais je trouve que la littérature féminine est particulière et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je souhaite qu'elle ait le prix Nobel parce que c'est vraiment une manière d'aborder l'histoire, les personnages, la psychologie. Elle a une analyse psychologique de ces personnages qui est, pour moi, tellement inattendue, singulière. Elle m'éblouissait à chaque phrase. Mm-hmm. C'est assez étonnant quand on tombe sur ce type de roman. J'ai eu, je pense, le même choc avec John Little et Les Bienveillantes, où tout à coup, t'es emporté par un flot de paroles et tu te laisses complètement guider par là où elle veut bien te mener, même s'il y a des invraisemblances. Alors, il y a des moments, toute la vie tout ce rapport avec le père, avec l'amante du père qui est complètement déconnectée de toute réalité et qui nous amène doucement vers des mondes assez obscurs. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très habile. Et naturellement, là, on tombe en amour aussi avec l'histoire, avec les personnages. Et j'ai eu des moments de grande émotion. C'est pas que la tête qui lit, c'est le cœur qui vibre à ce qui arrive aux héros. Et je me suis vraiment surprise à verser des larmes quand Théo vivait des grandes tragédies.
Ah oui.
Juste le chien, cet amour qu'il a pour le petit chien, mais c'est tellement magnifique comment ce chien le vit dans l'histoire. Alors, non, j'ai été transportée. Mais je conçois que lorsqu'on lit à haute voix, moi je lis souvent à haute voix des romans, lorsque je trouve qu'il y a des passages formidables, j'aime entendre la langue et c'est évident qu'on n'est pas dans le même rapport, mais j'envie les gens qui vont l'entendre, lui par vous, parce que c'est un voyage qu'ils vont faire, vraiment, vraiment. Ça, c'est assuré. Vraiment, là, destination garantie ou argent remis. Ça, c'est
alors,
clair.
Alors, les personnages, vous avez adoré tous ces personnages-là, Théo, Pippa,
Boris, Obi.
Moi, je ne suis pas encore arrivée à Boris, là, mais
Obi. Oh là là!
Obi, j'ai tellement aimé. Obi, et ce sous-sol, cette espèce d'atelier, là, avec des chaises en pattes de chèvre et tout ça. En tout cas, bon, ça, moi, tout ça, ça, c'est vraiment une période que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue par un dimanche de pluie, là, en septembre. Là,
c'est parfait.
Oh, c'était... Écoute, avec un petit thé à 5 heures, puis un petit scotch à 7 heures. De... Et...
c'est tout à fait dans l'esprit du livre.
non, mais c'est ça. OK, alors, l'ambiance, donc. Est-ce que c'est le genre de livre qu'on pourrait adapter?
Pour le cinéma, ça va se faire.
Mais c'est en cours.
Ça va se faire en cours, oui.
C'est sûr,
je l'ai lu dans les journaux. Ouais. Alors, j'ai fait Quelle chance. Mm-hmm. Et ça, c'est même pas du pif, ça va de soi.
Est-ce
ça va faire un film extraordinaire? Non, il n'y avait que le producteur qui était nommé dans l'article que j'ai lu. J'ai pas lu le nom du réalisateur et là, je me disais, qui va jouer Théo? Qui va jouer Pippa? Qui va jouer Obi? C'est comme impossible. En tout cas, là, c'est l'imagination que nous prêtons au roman et qui est difficile lorsqu'on voit, malheureusement, parfois un film adapté. Mais le sujet est vaste et ce que j'aime, c'est que la littérature est présente naturellement, la peinture, la musique avec Pippa. Et ça, lorsque je tombe sur un roman où là, c'est tapissé de différentes expressions artistiques qui font que notre vie bat au rythme de la musique et des arts et de la culture, ce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas. Je trouve que là, on est vraiment dans l'art dans sa globalité. Oui. Et c'est pas pour rien que vous mettez du Fauré. C'est là, tout à coup, la musique devient complémentaire
J'aurais
à la littérature.
J'aurais pu mettre du Palestrina, parce que une des premières fois qu'ils se rencontrent, elle écoute, mes souvenirs sont bons. Oui. Vous me demandiez, qu'est-ce qu'on peut, parce que ça semblait vous surprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce livre. Je voudrais vous lire notamment une critique négative. C'est un véritable ouf de soulagement que j'ai poussé en arrivant enfin au bout de ce bouquin. C'est incroyable. Mais c'est parce que
c'est un critique masculin ou féminin?
C'était un homme qui avait écrit
c'est clair.
Mais comment expliquer l'engouement autour de ce roman, ce passage interminable, en particulier la période passée par Théo à Vegas, marquée par l'ennui et les addictions?
Oh, excusez-moi, c'est Vegas,
Bon. Non, mais je me disais, je suis quand même demandé. Les personnages qui ne sont pas attachants.
Comme
à l'exception de Hobby et Pipa.
Et là, je ne peux pas croire qu'il a trouvé le père de Théo. Il n'est pas attachant, mais il est quelque chose. Il est surprenant. Et Boris est vraiment un personnage extraordinaire de roman. Ça m'a fait penser à Dostoïevski. Il y a des moments, j'avais l'impression de lire Crime et Châtiment. Alors, je mets la barre haute avec Donatart.
Oui, je comprends. Et puis là, surtout que le problème, c'est que vous allez avoir encore 10 ans à attendre avant qu'elle nous en prenne un autre.
Mais
parce
c'est
que ça.
Ça
nous prend à peu près cette
étape. J'aime mieux attendre 10 ans et lire une œuvre géniale qu'attendre un an et lire un navet.
Et ça, c'est ce qu'elle dit, elle, pour sa façon de faire.
C'est ça.
Je savais pas que je la citais.
Je préfère mettre longtemps plutôt que d'écrire quelque chose comme ça à la va-vite. Mais d'ailleurs, quand on se renseigne un petit peu sur sa façon d'écrire, quelque part, on comprend mieux la brique, le pavé. Un des internautes avait dit quelque part, c'est une merveilleuse broderie. Et en fait, c'est un petit peu ça, parce que quand on voit la façon dont elle procède, elle explique qu'elle écrit manuellement, dans des carnets, qu'elle utilise des encres de couleurs différentes en fonction des personnages, des événements, et qu'effectivement, elle écrit les choses sur 10 ans, sur 11 ans. Il y a même des passages qu'elle avait écrits sur Amsterdam avant même d'avoir l'idée d'écrire ce roman. Donc effectivement, après, on comprend mieux. Puis elle est très minutieuse. La littérature lui prend véritablement, et l'écriture, la tête, dans sa plus simple expression.
On comprend.
Parce qu'elle disait même qu'elle avait tenté d'être professeure de littérature à l'université et qu'elle avait tenu un mois parce qu'elle estimait que ça lui occupait trop l'esprit et qu'elle ne donnait pas assez aux étudiants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans ce qu'elle fait.
Oui.
Mais... du coup, elle en rajoute. Et moi, les critiques que j'ai trouvées, ça a toujours été plutôt un petit peu ce que je dis moi, c'est-à-dire une superbe histoire, un roman magnifique, mais on le réduit presque
de trop.
Voilà, 300 pages de moins, ça évitera des longues descriptions, des phrases alambiquées, et c'est génial.
Vous restez avec nous, Laurent
Pintal. Oui, ça va me faire plaisir.
Je n'ai pas de vin rouge à vous offrir, comme dans une certaine émission bien connue, mais par contre, vraiment, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup aussi à Marie-Christine Morat, qui va rester ici. Écoutez, c'est par le plus grand des hasards. On va passer maintenant à la rubrique le classique du jour. Et honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès. Et quand je vais vous dire de quoi il s'agit, on va s'apercevoir qu'il y a encore un lien, peut-être pas littéraire, mais avec Donatart.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Voilà, oui, j'ai appelé ça le classique du jour. C'est vrai qu'on pourrait appeler ça le classique de la semaine. J'ai choisi aujourd'hui de revisiter L'étranger d'Albert Camus, qui fait partie, Lorraine Pintal, des livres de votre liste mythique de bouquins incontournables. Et ça, vraiment, c'est un coup de chance. Et en plus, Marie-Christine, vous me disiez que, suite aux recherches que vous aviez faites sur Donatart, elle disait qu'entre autres, elle était fascinée par les écritures brèves, par les écritures directes. Ouais. Dont L'étranger de Camus.
Camus en général.
Ouais, L'étranger, c'est quand même un de ses chefs-d'œuvre. J'ai déjà eu la prétention de l'adapter pour le théâtre quand on parlait de possible adaptation. Oui. Évidemment, je pense que le Chardonneret ne s'adapterait pas très bien au théâtre, mais L'étranger, ça a été fait d'ailleurs par quelques auteurs ou comédiens français qui voulaient jouer ou faire en sorte que Camus, autrement que par ses pièces, traverse le rideau de scène et atteigne le spectateur. Mais ce sont des lectures que j'ai faites très jeune. Premièrement, c'était des des lectures obligatoires quand j'étais au secondaire. Mais mes sœurs aussi étaient très portées sur des existentialistes, alors que c'était encore un peu un index au Québec. Alors, vous allez mieux saisir mon âge. Et donc, on se passait la nausée en dessous des tables et l'étranger était quand même plus acceptable que les œuvres de Sartre, notamment la nausée. Mais c'est parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est une situation...
Et là encore, c'est un personnage
avec la mère
qui ouvre des portes hallucinantes. Parce que dépendamment de qui lit le livre, il y en a certains qui vont ouvrir une porte et d'autres qui vont en ouvrir une autre. Rappelons quand même très rapidement. Le livre commence par « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être « Hier, je ne sais pas ». Et là, la table est mise. C'est pas grave, on peut éternuer. On a tout à fait le droit, ma petite Marie-Christine. Voyons, nous sommes des êtres humains et nous sommes un homme. Ne vous en faites absolument pas pour
bon, d'accord.
J'ai cru qu'elle allait complètement étouffer, mais oui. Regardez, ça y est, c'est le temps de la grippe qui a commencé. C'est octobre, c'est comme ça.
Oui.
Bon, c'était le premier roman d'Albert Camus, il faut quand même aussi le rappeler, qui met en scène ce personnage de Meursault, donc, qui vit à Alger, en Algérie française. Et dans les jours qui suivent l'enterrement de sa mère, où tout le monde d'ailleurs dit que on a l'impression que ça ne le concerne pas, il va abattre un arabe de 4 coups de feu, je le précise, parce que les 4 coups de feu vont faire une grosse différence au moment du procès. Et c'est un procès, même là, il se sent exclu. On a l'impression que cet homme-là est toujours à côté, qu'il est étranger, non seulement à ceux qui l'entourent, mais à sa propre vie. Hein, c'est ça, l'étranger de Camus. Et ce qui fait une grande œuvre, c'est que justement, je le disais, elle permet d'ouvrir des portes différentes. Et bon, là, la porte principale, c'est est-ce qu'il est maître de sa vie ou est-ce qu'il est complètement...
étranger dans son propre corps.
Exactement.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai eu envie, peut-être, mais je pense que je vais manquer de temps. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour en lire un petit extrait? Non. Par exemple, quand il est au procès où il dit « Moi, j'écoutais et j'entendais qu'on me jugeait intelligent, mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c'était cela qui me frappait et je n'ai plus écouté le procureur jusqu'au moment où j'ai entendu dire « A-t-il seulement exprimé des regrets ?»
A-t-il seulement exprimé des regrets ?
Lorraine Pintal, c'était tellement agréable de vous recevoir.
Plaisir partagé.
Et donc, courez vous procurer le Chardonneret qui est maintenant disponible au SQLA, qui a été lu par Marie-Christine Morat, qui était aussi mon invitée dans cette première demi-heure de l'émission.